Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 16 octobre 2014, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, l'Algérie s'est qualifiée en battant le Malawi 3-0 et grosse désillusion à Abidjan, où les éléphants ont été battus 4-3 par les léopards de la RDC. Tous les résultats dans le journal des sports. Crise d'Ebola, le président américain Barack Obama affirme que le risque d'une flambée généralisée de l'épidémie ici aux États-Unis est très faible. Après les élections législatives et présidentielles hier au Mozambique, les analystes prédisent une nouvelle victoire du parti au pouvoir. Les Nations Unies dénoncent la mort ou la disparition de plusieurs dizaines de civils victimes de policiers de la RDC. Toujours en RDC, l'Église catholique accuse des politiciens de manipuler des jeunes qui ont attaqué des religieux.
Ces jeunes-là qui vont dans les églises ou qui contestent le message des évêques, je ne sais pas d'où ils viennent.
Voilà, en rappel, ne manquez pas les résultats complets de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2015 en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Le président américain Barack Obama affirme que le risque d'une flambée généralisée de l'épidémie d'Ebola aux États-Unis est très faible si toutes les mesures de protection sont prises. Il a souligné la nécessité d'une aide plus importante pour les trois pays les plus touchés, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants des États-Unis et d'autres responsables parlementaires ont suggéré mercredi à l'administration Obama de fermer le territoire américain aux ressortissants de ces trois pays africains. Et qualifiant l'Ebola de menace pour la paix et la sécurité dans le monde, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont exhorté tous les membres de l'ONU à élargir considérablement les ressources pour combattre la maladie.
Élections législatives et présidentielles hier au Mozambique. Les résultats sont attendus dans les prochains jours, mais les analystes prédisent déjà une nouvelle victoire du parti au pouvoir. Les précisions de Issiakaba.
Le Frelimo a gagné toutes les élections depuis l'indépendance et son candidat, l'ancien ministre de la Défense Philippe Nyusi, se dit confiant. Son principal adversaire, Afonso Dhlakama, leader de la RENAMO, affirme de son côté que sa cinquième course à la présidence sera la bonne. Des journalistes ont fait état de retard dans le démarrage du vote, essentiellement dans le Nord, bastion de l'opposition dont les militants ont saccagé trois bureaux de vote. Le chef de la mission d'observation de la SADC, Llewellyn Landers, ministre adjoint des Relations internationales d'Afrique du Sud, a noté une acrimonie persistante au sein de la classe politique mozambicaine.
I think essentially what parties should be encouraged to do is to teach their members, supporters, their voters tolerance.
Les partis doivent essentiellement enseigner à leurs membres, leurs partisans, leurs électeurs la tolérance des autres points de vue, que d'autres partis existent et qu'ils ont le droit de faire telle ou telle chose, à condition que cela soit conforme à la loi, a expliqué le chef de la délégation de la SADC.
Nouvelle montée de la violence en Somalie. Deux attentats à la voiture piégée ont secoué Mogadiscio hier, tous deux revendiqués par Al-Shabaab. Claire Morin-Gibourg.
Les deux attentats ont fait 7 morts hier dans la capitale somalienne et ont été aussitôt revendiqués par le groupe Al-Shabaab. Dimanche soir, un autre attentat au cœur de la capitale avait déjà fait 13 morts. Une multiplication des attaques alors que les islamistes Shebab sont chassés peu à peu des principales villes du centre et du sud somalien par les forces de l'Union africaine. Début octobre, les Shebab ont perdu Barawe, le dernier grand port qui était encore sous leur contrôle et qui constituait une importante source de revenus pour eux. La Somalie est privée de gouvernement central effectif depuis la chute du président Siad Barre en 1991. Depuis, le pays est en état permanent de guerre civile, livré à des chefs de guerre, des gangs criminels et des groupes radicaux islamistes, dont certains ont fait allégeance à Al-Qaïda.
Les Nations Unies ont dénoncé hier la mort ou la disparition de plusieurs dizaines de civils victimes de policiers congolais lors d'une grande opération anti-banditisme à Kinshasa entre novembre 2013 et février 2014, Eddie Isango.
Selon le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa, l'opération Likofi ou Code Point en Lingala a fait au moins 41 victimes, dont 9 exécutions sommaires et 32 disparitions forcées. Certaines victimes ont été abattues dans leur quartier, parfois à la sortie de leur domicile. L'ONU demande aux autorités de mener des enquêtes crédibles et impartiales et de traduire en justice tous les auteurs présumés de ces exactions. Les rapports onusiens publient aussi une réponse du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyege, indiquant que certains écarts des policiers ont abouti à des condamnations dont les ministres ne précisent pas les nombres. L'opération Likofi, menée du 15 novembre 2013 au 15 février 2014, avait pour but de débarrasser la capitale des Kuluna, où bandits qui sémaient la terreur dans certains quartiers de Kinshasa.
L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, sera principalement poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État au procès qui débutera le 22 octobre à Abidjan. C'est ce qu'a déclaré mercredi l'un de ses avocats à l'AFP. Simone Gbagbo, âgée de 65 ans, est aussi accusée par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale.
Et puis, la mère de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est décédée mercredi soir, 3 jours après son retour d'exil, selon l'AFP. Le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, cité par l'AFP, a expliqué au sujet de Marguerite Gado, âgée de plus de 90 ans, que sa dernière volonté était de mourir dans son village.
Le Sénégal espère produire son premier baril d'or noir en 2019-2020 à la suite de la récente découverte de pétrole au large de ses côtes. C'est ce qu'a affirmé hier à Dakar le patron de la société publique sénégalaise Petrosen. Le groupe britannique Cairn Energy a annoncé la semaine dernière avoir découvert du pétrole au large des côtes de Sangomar, le littoral sud-ouest du Sénégal.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pentagone affirme que ses avions de guerre bombardent des cibles dans la ville syrienne de Kobané. Le général américain John Allen a expliqué que ces frappes visent à donner aux forces kurdes qui défendent la ville le temps de se réorganiser. Selon des analystes américains, ces bombardements ont tué plusieurs centaines de combattants de l'État islamique.
Nucléaire iranien, selon un haut diplomate américain, l'Iran et les 6 puissances mondiales cherchent à trouver un accord avant le délai du 24 novembre qui s'était fixé. Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne sont centrés sur la réduction du nucléaire iranien.
Le président russe Vladimir Poutine a accusé son homologue américain Barack Obama d'avoir une attitude hostile envers la Russie. Dans une interview au quotidien serbe Politica, dont le contenu a été publié mercredi soir par le Kremlin, Poutine faisait référence au discours prononcé dernièrement par Barack Obama devant l'Assemblée générale des Nations unies, dans lequel le président américain avait dénoncé l'agression de la Russie en Europe, une référence à la crise en Ukraine.
Nouveau rassemblement pacifique mercredi soir à Hong Kong. Les heurts de mardi soir et mercredi matin figurent parmi les plus violents depuis le début de la campagne pro-démocratie le 28 septembre dans l'ancienne colonie britannique. Hong Kong connaît sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les violences policières et souhaitent une enquête rapide, claire et complète, a déclaré le département d'État.
Tempête de neige et avalanche dans l'Himalaya au Népal. Bilan au moins 12 morts, dont 8 randonneurs étrangers, 2 Polonais, 1 Israélien, 1 Indien et 4 Canadiens. Selon les autorités, 14 personnes ont été secourues. Elles craignent cependant un bilan plus lourd car le mauvais temps a rendu les communications difficiles, empêchant la localisation de potentielles victimes. Voilà, c'est tout pour le journal. Il est 6h09 en temps universel, 2h09 ici à Washington. Au micro, Bagassi Koura, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. L'Église catholique en RDC accuse donc des politiciens de manipuler des jeunes gens qui s'en sont pris à des religieux pour protester contre un message des évêques opposés à la révision de la Constitution. Le secrétaire général de la Conférence nationale épiscopale du Congo, l'abbé Léonard Santédi, a déclaré à l'AFP qu'il n'y avait aucun soulèvement d'une partie des fidèles catholiques contre la hiérarchie de l'Église. Au lendemain du message des évêques, un groupe de jeunes a passé à tabac des prêtres et religieux à Lodja, dans le Kasaï oriental. Eddie Isango a interviewé à ce sujet un analyste, le professeur Philippe Bioya.
L'Église catholique a des structures qui existent, par exemple
Je connais le Conseil catholique laïque, CALCC, où de temps en temps, on est passé peut-être faire des conférences. Je connais, par exemple, le truc de la justice, je ne sais pas comment ils appellent encore ça. Ils ont des structures, mais ces mouvements-là qu'on observe là ne proviennent pas de ces structures-là. En 2011, c'était les jeunesses des partis politiques bien identifiés. Il y avait, par exemple, à Kinshasa, la jeunesse du mouvement PPRD contre la jeunesse, par exemple, de l'UDPS. En fait, là, c'était les jeunes de PPRD qui voulaient, en fait, en découdre avec les jeunes de l'UDPS, qui étaient les mouvements qui avaient pignon sur la Kinshasa, et les PPRD pour redresser la tête, pour montrer qu'ils existaient aussi, ils sont sortis et ils s'affrontaient. Mais ici, ce n'est pas que ces jeunes-là qui vont dans les églises ou qui contestent les messages des évêques. Ben, je ne sais pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de l'église ou ils sont en dehors de l'église? C'est pourquoi on ne peut pas dire que ce sont des mêmes structures et des mêmes types de violences, non?
Voilà, Philippe Biyoya au micro d'Eddy Isango.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Lors de la 131e Assemblée de l'Union interparlementaire sur le thème « Mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles », le futur Policy Award, qui récompense la meilleure politique mondiale, a été décerné à la ville américaine de Duluth, dans le Minnesota, pour son plan d'engagement communautaire de lutte contre la violence domestique. Les lois exemplaires de l'Autriche et du Burkina Faso se partagent le second prix. La première dame burkinabé, Chantal Compaoré, a reçu la médaille d'argent pour la loi interdisant les mutilations génitales féminines adoptée dans son pays en 1996. Nathalie Barge a joint à Genève Fatoumata Diendéré Diallo, vice-présidente du Parlement du Burkina Faso. Elle annonce l'adoption prochaine d'une loi contre les violences faites aux femmes.
L'excision actuellement se transforme en excision transfrontalière. Il n'est pas rare de voir des exciseuses de la République du Mali, je prends un exemple, qui franchissent la frontière pour venir au Burkina Faso pour faire cette pratique et vice-versa. Ce qui veut dire que assez longtemps, il a été développé des méthodes pour pouvoir contrer cette excision, mais celles qui se rebellent toujours à cette pratique trouvent aussi d'autres moyens pour pouvoir continuer. Mais je retiens quelque chose de très important. Il y a quand même eu des effets positifs qu'il faut noter. C'est la mobilisation générale des personnes ressources, comme nous les appelons, autour des chefs religieux, des chefs coutumiers et surtout de la société civile au Burkina Faso, et sous en tout cas la clairvoyance de Mme Chantal Compaoré et du gouvernement burkinabé, nous sommes arrivés à ce résultat.
Alors Mme Diendéré Diallo, je rappelle que vous êtes vice-présidente du Parlement du Burkina Faso, donc parlons justement de votre travail à vous, parlons des lois en matière de mariage forcé, de mariage précoce au Burkina Faso. Est-ce que vous parvenez à sanctionner des personnes et à faire évoluer les choses, notamment pour les filles mineures qui sont mariées?
Oui, c'est vrai, madame, il y a d'autres mots. Les mariages forcés, on a des grossesses indésirées, on a des personnes âgées et sans soutien au niveau de la famille, celles qu'on appelle les mangeuses d'âmes, qui sont brutalisées et chassées de leur village et qui se retrouvent aujourd'hui à Ouagadougou au sein d'un centre qu'on appelle le centre de l'Ouindé. Ben, toutes ces choses, c'est des violences faites aux femmes. Au sein, par exemple, du Parlement burkinabé, nous avons le réseau qu'on appelle le caucus genre. Et à ce jour, je peux vous dire, madame, qu'il y a une loi qui est en train d'être déposée sur le bureau du président de l'Assemblée nationale pour que enfin nous voyons une loi contre les violences faites aux femmes. Et c'est depuis quand même deux législatures que des députés se sont mis ensemble pour porter cette réflexion. Mais nous pensons que nous allons y arriver.
Voilà, Fatoumata Diendéré Diallo, vice-présidente du Parlement du Burkina Faso, que vous entendrez samedi à 19h35, temps universel, dans le magazine de la femme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est le dernier pays à imposer des sanctions à la Russie en réaction à son ingérence en Ukraine. Mais les experts s'interrogent sur l'efficacité de ces sanctions, Camille Gros-Didier.
Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé plusieurs séries de sanctions contre la Russie pour son annexion de la péninsule de Crimée en mars et son soutien aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Anders Aslund, un expert sur la Russie à l'Institut Peterson pour l'économie internationale, rappelle que les premières sanctions ciblaient les personnes et entreprises directement impliquées dans l'annexion de la Crimée ou des proches du président russe Vladimir Poutine. Et depuis juillet, ces sanctions sont allées beaucoup plus loin, touchant des secteurs entiers de l'économie russe, notamment la finance, la haute technologie, le secteur de l'énergie et celui de la défense. De nombreux experts, dont Matthew Rochansky du Wilson Center de Washington, se demandent si les sanctions ont eu l'effet désiré. Eh bien, cela dépend du but des sanctions, tel que vous le comprenez. Il me semble que c'est surtout pour changer les comportements, pour décourager les mauvais comportements. Et si on le comprend ainsi, cela n'a pas marché. Monsieur Aslund rappelle que les sanctions ont un effet économique sans avoir nécessairement l'effet politique recherché. L'économie de la Russie en pâtira, à son avis. Le gros problème de la Russie, sa grande vulnérabilité, est que sa dette extérieure est de 730 milliards de dollars, ce qui est beaucoup d'argent. C'est à peu près 40% de son produit intérieur brut et elle a besoin de refinancer cette dette à hauteur de 160 milliards de dollars par an. Or, cet argent n'est pas disponible maintenant. Autre problème pour la Russie, la chute des revenus du pétrole, le prix du baril ayant baissé de 20% au cours des derniers mois, alors que le pétrole représente 50% des exportations du pays. Du coup, le rouble s'est déprécié de 20% depuis le début de 2014. Ironiquement, fait valoir Stephen Jones, expert sur la Russie au Mount Holyoke College, les difficultés économiques de la Russie ne sont pas nécessairement le fruit des sanctions internationales, mais plutôt le fait de sa dépendance du pétrole. En représailles contre les sanctions occidentales, Moscou a imposé des restrictions sur les importations de poissons, viande, fruits, produits laitiers et légumes, en provenance des pays qui ont sanctionné la Russie. Mais pour M. Aslund, cela ne fait qu'alimenter le marché noir en exacerbant les pénuries.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le mariage civil et les unions homosexuelles. Après les récents développements aux États-Unis et le ton modéré du Vatican, vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h30 sur la VOA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure de sport et j'accueille Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
De grosses surprises hier lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2015, à commencer par Abidjan.
Oui, la République démocratique du Congo a fait chuter la Côte d'Ivoire. Victoire 4-3 des Léopards qui se relancent dans ce groupe D. Scénario incroyable où les éléphants réduits à 10 ont été menés 3-1 avant de revenir à égalité 3-3 grâce à un doublé de Kalou. Les hommes d'Hervé Renard pensaient avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter, sans Bokila, qui crucifie les Ivoiriens à la 90e minute. La RDC l'emporte, elle est désormais deuxième ex-aequo avec la Côte d'Ivoire, 6 points chacune. Écoutons la grosse déception d'Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Quand on est confronté à des contre-attaques et on est aussi peu résistant défensivement, c'est difficile d'espérer quelque chose. Et sur les contres, notamment en première mi-temps, à chaque contre on a été sanctionné, sans pratiquement aucune réaction défensive. On a pourtant marqué des buts exceptionnels qui auraient mérité autre chose au bout, mais c'est comme ça. Contrairement à ce que vous dites, je ne vous ai jamais dit que c'était une bonne chose de perdre à domicile, mais ça fait partie de la vie. Dans la vie, il n'y a pas toujours des moments faciles. Donc si vous avez seulement des moments faciles dans votre vie, vous avez de la chance. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Et je peux vous dire que la qualification sera au bout.
Voilà pour les mots d'Hervé Renard. À Yaoundé, autre ambiance, les Lions Indomptables sont seuls en tête de ce groupe ce matin après la victoire 2-0 face à la Sierra Leone. Léonard Kouéké et Stéphane Biya inscrivent les deux seuls buts du match lors des 7 premières minutes. Écoutons sur place le reportage de Jules Lobo.
Face à la Sierra Leone, les Lions indomptables du Cameroun ont enregistré leur troisième victoire dans ces éliminatoires, un résultat favorablement apprécié par les supporters.
Un match très équilibré du point de vue physique. Le Cameroun a été tout simplement réaliste. À l'opposé donc du match aller où la Sierra Leone a opposé une densité physique. Je me dis aussi que d'ici la suite de la compétition, le Cameroun va donc avec un moral un peu plus haut.
J'ai vraiment apprécié le match et la façon les joueurs ont vraiment maintenu le football. Si vraiment ça continue comme ça, j'espère que nous allons y arriver. Nous pourrons peut-être faire quelque chose.
Ils ont bien joué. On a quand même vu la réaction des gars. Les gars avaient envie de jouer, avaient envie de gagner. Donc on a quand même vu les efforts.
Après le match nul enregistré au match aller, l'équipe nationale du Cameroun avait l'obligation de résultats, malgré son rajeunissement. Volke Finke, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables.
C'est une équipe vraiment en construction, et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses aussi aujourd'hui qu'on peut faire mieux, mais finalement c'était un match contrôlé, on a commencé très bien avec les deux buts.
Prochaine étape, le 15 novembre prochain, ce sera contre la RD Congo. Yaoundé, Jules Lobo, pour la Voix de l'Amérique.
Autre résultat dans le groupe A.
Oui, le Nigeria sauve sa tête, victoire 3-1 face au Soudan. Les Super Eagles se donnent un sursis après le match nul 0-0 à Polokwane entre le leader du groupe, l'Afrique du Sud, et le Congo-Brazzaville.
L'Algérie, elle, s'est qualifiée après sa victoire 3-0 contre le Malawi à Blida. En revanche, grosse déception pour les Aigles à Bamako.
Les Walias d'Éthiopie risquaient l'élimination en cas de défaite, mais ce sont les Éthiopiens qui se sont imposés 3-2. Du coup, le suspense est un peu relancé dans ce groupe.
Dans le groupe C, le Burkina Faso et le Gabon se sont neutralisés.
Un partout, au stade du 4 août, c'était serré. Le compte-rendu de Salif Kabore.
Avec ce résultat nul engrangé à Ouagadougou, le Gabon confirme sa supériorité dans le groupe C, surtout devant les vice-champions, les étalons du Burkina. Mais pour l'entraîneur burkinabé Paul Put, la déception vient de l'arbitrage botswanais.
On est déçu parce que si tu vois les deux matchs, je pense que sur les deux matchs, on mérite beaucoup plus qu'un point. Moi, je ne comprends rien au niveau des arbitrages parce que si on joue à l'extérieur, on joue contre 12. Maintenant, si on joue à domicile, on joue aussi contre 12. Moi, j'ai rien compris.
D'après le capitaine des étalons, ce sont les erreurs qui ont favorisé l'adversaire, Charles Kabore.
À chaque fois qu'on prend un but, c'est nous on donne. Il faut prendre zéro en défense pour pouvoir concrétiser les actions. Je pense que tous les compartiments, on doit se revoir et travailler pour être plus unis et plus concurrents.
Et côté gabonais, le voyage de Ouagadougou est bel et bien un succès. Papa Aubameyang, entraîneur adjoint des Panthères du Gabon.
On savait très bien que les étalons sont vice-champions d'Afrique, mais encore une fois, je vous le dis, sans prétention aucune, même s'ils sont vice-champions, on est venu pour chercher quelque chose.
Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Et autre résultat dans ce groupe, l'Angola qui bat le Lesotho 4-0 à Luanda dans un match sans véritable enjeu.
Dans le groupe E, il faut noter que le Togo récolte les morceaux.
Nouvelle victoire 1-0 devant l'Ouganda, des éperviers à Lomé grâce à Serge Akakpo. Les Togolais sont désormais deuxième avec 6 points derrière le Ghana qui a battu la Guinée 3-1. À Lomé, le reportage de Kailosson.
Cette défaite face aux Togolais en l'espace d'une semaine a revivé la rage dans le camp ougandais, comme le dit son entraîneur Sredojevic Miloutin.
Every match we are playing in this group for us is like
nous devons jouer les matchs avec un esprit de phase finale de Coupe d'Afrique et des Nations. Donc chaque match a un enjeu important et nous devons nous y atteler dans ce sens. Mais nous sommes dans la logique suivante, qui consiste à ne jamais abandonner. Donc nous avons toujours espoir.
Look for our chance in mathematics in last two games.
Après Kampala la semaine dernière, les éperviers du Togo ont confirmé leur bonne forme devant les Ougandais à Lomé. Tchanile Tchakala, entraîneur des éperviers.
Nous avons commencé difficilement. De toute façon, nous sommes en train de graduellement retrouver la vitesse de croisière. Pendant un an et demi, cette équipe n'a plus joué. Et les automatismes, dès qu'on a commencé, ça ne peut pas automatiquement venir. Et je pense quand même que c'est au fil du travail que nous allons aboutir quand même à la satisfaction générale.
Les supporters togolais ont cru jusqu'à la fin et font déjà des calculs pour espérer voir le Togo présent au Maroc pour la CAN 2015. Kailosson Lomé pour la Voix de l'Amérique.
La Zambie se rachète dans le groupe F.
Méconnaissable avec un seul but marqué lors des trois premières journées, la Zambie a corrigé le tir contre le MENA du Niger, sèchement battu 3-0. Le choc entre les lusophones opposés à Praia, le Cap-Vert qui l'a emporté devant le Mozambique, 1-0.
Et dans le groupe G1, à Monastir, 1-0 pour la Tunisie face au Sénégal. Les deux équipes toujours en tête de ce groupe.
Et à noter dans ce groupe que l'Égypte s'est relancée et s'est redonné le moral après sa victoire 2-0 face au Botswana.
On passe à la page musicale avec Roger Moutou. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Un album qui va faire polémique, c'est celui d'Alicia Keys. Elle annonce déjà la couleur de son prochain album. Le successeur de Girl on Fire en 2012 ne fera l'impasse sur aucun tabou. La chanteuse a révélé que ses nouveaux titres évoqueront des sujets sur lesquels elle n'a pas l'habitude de s'exprimer. À nous, on attend. Entre-temps, on écoute ce matin Girl on Fire, une chanson d'Alicia Keys en featuring avec Nicki Minaj.
Spirit of Marilyn calling me, audibly boiling she, said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, running like a highway. She's living in a world and it's on fire.
Alicia Keys est enceinte de son deuxième enfant qui devrait naître au mois de décembre prochain.
Oui, Bagassi, décembre prochain, ça sera la fête chez Alicia Keys. L'interprète de No One a confirmé que son disque pointera dans les bacs dans les semaines qui viennent. Rebelle, Alicia Keys a également confié que l'image lisse qui caractérise habituellement ses chansons devrait s'envoler au profit des titres qui pourraient choquer le public.
Alicia Keys featuring Nicki Minaj, Girl on Fire. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Bagassi. Nos salutations à nos amis de Kinshasa qui nous suivent chaque jour sur Raga FM.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel.
So bright she can burn your eyes, better look the other way. You can try but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody stares as she goes by.
If you hear God, make the fire disappear when they see God. Take away my fear when they in the fear God.
Voilà, ainsi donc s'achève cette édition. Anne Alverson a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis au micro Bagassi Koura. Passez une excellente journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.